Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous présenter ce supplément spécial festival de Luchon à l'occasion évidemment de cette 27e édition qui vient de se dérouler du côté des Pyrénées, qui a rendu son verdict donc du côté de Luchon. Samedi soir, on va vous dévoiler effectivement le palmarès de cette 27e édition, mais ce n'est pas tout. Nous allons avoir le plaisir également de recevoir dans cette spéciale Isabella Pisani, qui est la responsable de l'unité documentaire du côté de la chaîne LCP. Nous allons également recevoir aujourd'hui le producteur et le réalisateur de Notice Rouge, un documentaire qui sera diffusé demain soir sur LCP. Et puis nous allons également recevoir la productrice et le réalisateur de Océania, Les Gardiens de l'Océan, qui sera diffusé ce soir sur France 5. Qui nous restera bien sûr aussi à adresser quelques remerciements sur cette magnifique édition où on a été évidemment très très bien reçus. Alors, ce palmarès, qu'en est-il ? Eh bien, l'unité documentaire, on rappelle qu'elle a été couronnée de succès avec 5 prix attribués par le jury présidé par Lionel Astier. Concernant donc le grand prix documentaire, il a été attribué au Visage de la guerre, qui sera diffusé la semaine prochaine d'ailleurs, dont nous recevrons la productrice Félicie Roblin. Et nous avons également le prix du jury qui a été attribué à la leçon de violon de Julie Bertuccelli. Ex-aequo avec Inceste, le combat d'une vie, par la réalisatrice Stéphanie Pilanka. Et puis pour le prix de la meilleure musique originale, Lamine Diagne, pour Claude Maquet, Errance d'un poète révolté, a remporté le prix. Et ça tombe bien, Lamine a réagi à notre micro.
Ben, je suis vraiment comblé parce que je m'attendais à rien du tout. Et voilà, je repars avec un très beau cadeau. Ce prix, en fait, il est partagé parce que je ne suis pas le seul à composer. Il y a aussi Gérard Tanugi-Cohen qui a composé la musique avec moi. Et je pense que si Claude Maquet nous entend, il est très fier de ce qui se passe en ce moment.
Je suis sûr. Réaction du réalisateur, Mathieu.
Ah ben on est très heureux. La musique dans ce film, elle est vraiment, c'est un personnage à part entière. Il porte le récit, 47 minutes de musique sur un 52. Et la musique, elle fait partie intégrante de l'œuvre de Claude Maquet. Donc c'est logique qu'elle apparaisse dans ce film, qu'elle prenne une place et que le jury ait reconnu la belle place qu'elle pouvait y avoir.
Et on aura l'occasion de vous recevoir tous les deux, bien sûr, pour la diffusion de ce film qui est prévu sur
France 5 en mai.
Ben voilà, le rendez-vous est pris. Merci à tous les deux. Merci Mathieu, merci Lamine et bravo encore.
Merci.
Et on terminera par le prix du public qui a été attribué à Océania, Les Gardiens de l'Océan, de Reynald Merienne, qui a également réagi à notre micro avant de recevoir tout à l'heure également avec Catherine Alvarez, sa productrice.
Ouais, c'est une récompense extraordinaire. Je suis encore traversé par l'émotion. C'est vrai que lorsqu'on fait des documentaires pour la télévision, on n'a jamais le retour du public. Et là, le fait d'avoir pu participer à la projection ce matin, d'avoir le retour, les questions du public, de vivre un petit peu leurs émotions et d'avoir ce soir cette récompense qui est décernée par le public, c'est juste un bonheur immense parce que c'est effectivement pour le public qu'on essaie de faire ces films pour que ça les touche, que c'est un écho, que ça résonne. Donc voilà, je suis sur un petit nuage.
Et ça parle en plus de la protection des océans, donc c'est très important, bien évidemment.
C'est essentiel de préserver notre environnement et c'est essentiel de porter la voix des Océaniens. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de leur héritage, de leur culture, de leur histoire. Et donc voilà, c'est un film qui me tient particulièrement à cœur et je suis ravi évidemment.
Eh bien écoute, après le palmarès, tu reviens avec ta productrice justement. On va en parler d'Océania, Les Gardiens des Océans, qui débarque ce soir à 21h05 sur France 5. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Et on va tout de suite commencer maintenant par les prix de la fiction. Concernant les prix fiction, on va commencer par le prix public de la collection. Ils étaient trois en compétition, Meurtre à Concarneau, Monsieur Parizeau et Crime à Cluny. C'est donc Crime à Cluny qui l'emporte. Une fiction qu'on découvrira bientôt avec Sonia Roland, Marie-Fève Sherman, ainsi que Sandra Dorsey. Et ça tombe bien, Céline Guéraz, la réalisatrice dont c'était le premier unitaire, a réagi à notre micro avec Sandra Dorsey et Marie-Fève Sherman.
Écoutez, je suis extrêmement touchée et très honorée d'avoir gagné ce prix, d'autant que c'est le public et je trouve que c'est vraiment le reflet de... C'est en toute sincérité, en fait. Pour moi, un public ne triche pas. Donc,
je crois que c'est ton premier film.
Et en plus, c'est mon premier unitaire. C'est pas mon enfin, en tout cas, mon premier unitaire. Puisque jusqu'à maintenant, j'ai fait de la série et de la quotidienne. Donc, j'en suis encore plus fière. Et en plus, aux côtés de Sandra, de Marie et Sonia qui n'est pas là. Mais en tout cas, je pense fort à elle. Et merci, 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 merci les filles.
Marie, petite réaction à chaud. Marie-Fève Sherman qui nous a rejoint.
Je suis hyper émue parce que je trouve que c'est un tellement beau prix. C'est le plus beau que j'aurais voulu avoir pour Céline et pour tout le film et ce que ça englobe. Enfin, je suis trop fière de Céline et de tout ce qu'on a fait. Enfin, je suis trop contente. Je suis juste trop contente.
Sandra.
Bah, je crois rajouter merci. Elles ont tout dit. Le prix du public, c'est le plus magique, le plus fort, le plus sincère. Et puis, il parlait d'une réalisatrice, mais moi je dis à tout le monde aussi tourner avec Céline Garas parce que sur un plateau, c'est doux, c'est en même temps elle sait ce qu'elle veut et c'est avec bienveillance et c'est tout ce qu'on demande, quoi. Voilà, c'est la nouvelle ère des gentils et c'est beau.
Il sera bientôt diffusé sur France 3, Crime à Cluny, et on aura l'occasion de vous recevoir toutes les trois justement pour en parler et nous parler d'histoire. Et puis encore bravo.
Merci infiniment.
Merci. Merci, merci pour ta gentillesse. Merci.
On va passer également au prix du public avec le meilleur téléfilm pour le public qui a été attribué au téléfilm Après la fin, réalisé par Frédéric Lopez. Et puis on va passer également maintenant au prix attribué par le jury fiction qui était présidé par Valérie Bonneton. On va commencer par le prix de la meilleure musique qui a été attribué à Guillaume Loiseau pour le téléfilm Une relation dangereuse. Mais ça va pas s'arrêter là. Vous allez le voir. Le prix du meilleur scénario, lui, a été attribué à Françoise Charpia et Frédéric Lopez pour le téléfilm Après la fin. Et le prix de la meilleure réalisation a été attribué à Nadège Loiseau pour Une relation dangereuse, qui a remporté également le prix de la meilleure interprétation féminine pour Ophélia Kolb. À cette occasion, nous avons eu la chance de recevoir à notre micro pour des réactions la productrice Odile McDonald et ainsi que Ophélia Kolb.
Je suis très très fière pour le film et pour le personnage. J'ai l'impression qu'elle existe vraiment. Donc je suis fière pour elle, pour Virginie, c'est curieux, hein. Non mais c'est comme si ça parlait de toutes les femmes qui ont vécu ça ou qui vont le vivre, ou qui ont des amis, des sœurs, des mères, nos voisines, les femmes qu'on croit sans le savoir qui vivent ce genre de dépression. Et je suis très heureuse qu'on en parle et je suis fière d'avoir porté ce rôle là et donc fière qu'il soit reconnu avec un prix ce soir.
Et puis surtout à la comédienne, carrément. Non mais c'est merveilleux, Ophélia, c'est vrai.
Oui, c'est merveilleux d'avoir eu 3 prix pour ce film-là qui me tient tellement à cœur et je suis très heureuse pour Nadège et pour Guillaume Loiseau aussi qui a eu le prix de la meilleure musique.
Et oui, prix meilleure musique et justement le prix de la meilleure réalisation pour notre amie Nadège Loiseau. Odile McDonald, la productrice, est justement avec nous. T'as peut-être envie d'adresser un petit mot à Nadège justement.
Je veux la remercier, bien évidemment, la remercier d'avoir fait ce film. Parce qu'elle est tellement talentueuse, parce qu'elle est une femme exceptionnelle. Ophélia a raison, c'est un film qui parle d'histoire de femmes, mais d'hommes aussi. Et Nadège a su le traiter avec toute la finesse, le respect que le sujet demandait, mais aussi avec légèreté, avec humour, avec tendresse. Donc c'est un film qui est fort, qui est vrai, mais qui est aussi très, très, très plein de joie. Et je la remercie pour ça.
Merci beaucoup Odile et on t'embrasse Nadège très fort. Et on va continuer avec le prix de la meilleure interprétation masculine qui a été attribué à Louis Derunx pour le téléfilm Après la fin, où il livre une prestation très émouvante et très juste. Louis a réagi à notre micro.
Ah non, c'est magnifique de recevoir ce prix, mais c'est vraiment... Ça a été toute une équipe, ça a été toute l'ambiance du tournage, ça a été toute la préparation, ça a été tous mes collègues acteurs avec qui j'ai pu jouer ensemble. Tout ça, on l'a créé tous ensemble. Donc c'est le plus beau couronnement de la plus belle de toutes les aventures.
Tu t'es rendu compte que tu avais fait verser une larme à toute la salle?
Non, pas du tout. Non, et puis, voilà, il y a tout qui est sorti du cœur. Et puis, c'est un moment extrêmement émouvant. Ça m'a... Je suis encore en train de trembler un peu à l'intérieur.
Je t'avoue que pour ton premier grand rôle à la télévision, décrocher le prix d'interprétation masculine, intérieurement, ça doit bouillonner.
Ah non, mais c'est... Et puis, c'est toute l'énergie qu'on a reçue ici à Luchon. Autant de tous les bénévoles de l'équipe, mais aussi de tout le public. Ça a été juste une vague d'humanité, de beauté vraiment rare. Et je me sens extrêmement reconnaissant d'être là ce soir, extrêmement reconnaissant d'avoir reçu ce prix et d'avoir vécu cette incroyable aventure. Vraiment.
Bon, Louis, en tout cas, on défendra le film hein, pour sa diffusion, évidemment, sur France 2. Tu viendras avec Frédéric, justement, toute l'équipe, avec David Salle pour le présenter. Et puis, on va tout faire pour essayer de t'organiser des avant-premières dans notre région pour que tu puisses encore prendre une bouffée d'amour.
Oh, ce serait magnifique et ce serait avec un énorme plaisir.
prépare ça, on va essayer d'organiser ça. Merci beaucoup, mon cher Louis.
Merci à vous, merci.
On continue avec le prix de la meilleure fiction série qui a été attribué, comme à La Rochelle, à la série Phoenix, réalisée par Franck Brett, qui a réagi à notre micro avec Alexandre Charlet, son producteur, et Léo Legrand, son comédien.
Eh ben, écoute, on est hyper heureux. Ça a touché le jury, ça a touché le public. Et là, on n'a qu'une envie, c'est que ça sorte, parce qu'on a... On a hâte de savoir ce que les gens pensent et d'avoir les retours du public, du vrai, à la télé. Et on est sur la plateforme. Enfin, d'abord sur la plateforme, pardon.
Mais bientôt sur France 2 hein, aussi, oui, bien sûr. Aussi. Et c'est vrai que c'est une sacrée victoire sur les gens qui n'y croyaient pas.
Écoute, nous, on a que eu des retours positifs parce que les gens viennent nous voir. Donc, on est entouré de beaucoup de retours. Ça fait naître le débat. Les gens viennent nous en parler. Donc, on sait qu'on a fait... On a fait quelque chose d'utile, d'actuel et on en est fiers.
Utile, exceptionnel, c'est ce que Léo a dit sur scène. C'est très important ce prix, Léo Legrand qui réagit.
Oui, c'est très important d'avoir ce prix, d'avoir cette reconnaissance-là, de se dire qu'on n'est pas les seuls à être concernés par ce problème et de dire que c'est pas encore passé sous le tapis. Voilà, on est très heureux d'être là, même si voilà, on a aujourd'hui des problèmes avec l'Assemblée nationale, en tout cas cette commission parlementaire. Qui essaye un peu de nous enfoncer. On essaie quand même de sortir la tête de l'eau et voilà, on sera là.
Hubert, petit mot.
Voilà, un festival c'est pour rencontrer un public. Je crois que Phoenix a rencontré son public, donc ça c'est génial. Et ensuite, voilà, deux prix c'est toujours mieux qu'un prix. Et ça va être maintenant il faut que les gens soient présents le 12 février. Il faut que ce message soit transmis au maximum de personnes, quoi. Voilà.
Et oui, c'est dans 3 jours. Là, ouais. Oui, jeudi. Voilà, Alexandre, le producteur, un des producteurs avec Nicolas de Saint-Méloc. D'ailleurs, on vous recevra lundi prochain où on évoquera Phoenix, bien sûr, en long, en large et en travers avec Nicolas. Il y aura Franck, Léo, ils seront là tous pour nous parler de cette série. Réaction du producteur.
Ben, on est ravis quand la série plaît au public, plaît au jury. On avait eu le prix à La Rochelle de la meilleure série, on a le prix de la meilleure série à Luchon sur une série qui est utile, une série porteuse de sens, une série financée par le service public. Enfin voilà, c'est important, c'était un désir de fiction et ce désir est devenu réalité. Donc merci à tous ceux qui y ont cru, à tous nos partenaires, merci à toute l'équipe et à tous les talents. Et on partage ce prix avec tout le monde. Merci beaucoup.
Phoenix, jeudi sur France.tv, 6 épisodes à découvrir et bientôt sur France 2. Merci. Et puis on terminera par le prix de la meilleure fiction unitaire et jamais 304. C'est le 4e prix pour Après la fin, le film de Frédéric Lopez qui a réagi avec beaucoup d'émotion à notre micro.
L'émotion est difficile à décrire, c'est un choc, je crois. Je crois qu'on est tous en sidération. C'est l'histoire de Louis de Rinx qu'on a adapté à l'écran. Et c'est une histoire qui a duré 9 ans. 9 ans pour que le film existe. Et là, prix du meilleur scénario, prix du public, prix de la meilleure fiction de la part du jury et prix d'interprétation pour Louis de Rinx qui joue son propre rôle et qui joue pour la première fois à l'écran. Donc ça s'appelle Après la fin. Ça passera bientôt sur France Télévisions. J'espère que le public sera très nombreux. En tout cas, nous, ce soir, on est en état d'apesanteur pour ne rien vous cacher.
Ça fait du bien d'avoir la reconnaissance du public et des professionnels. C'est coup double, là.
Quand on se bat pendant 9 ans pour qu'un film existe, forcément il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent nous faire douter. Et là, d'un coup, de voir que le public a aimé le film et l'a désigné comme meilleur film du festival. Et puis que le jury, nos pairs, c'est des gens dont c'est le métier depuis longtemps, trouvent que c'est le meilleur film, sont bouleversés. On se sent compris et c'est une émotion qui est difficile à décrire. Et puis c'est un film sur la vulnérabilité. On est dans un monde où effectivement on braque les caméras sur les gens les plus toxiques et les plus dangereux de la planète, mais il y a aussi des gens très très inspirants sur cette planète et c'est bien quand on porte notre attention sur eux. Et Louis de Rinx, puisque ce film raconte sa vie, est quelqu'un de très très inspirant et j'espère que le public sera inspiré.
Et on va prendre sa réaction dans quelques instants. Frédéric, bravo encore une fois. Moi, c'est un de mes gros coups de cœur du festival. Je suis en tout cas très, très heureux pour toi. Et on espère le ramener chez nous, le montrer au public charentais. On va tout faire pour t'organiser de très belles avant-premières. On va essayer en tout cas de préparer ça. Parce que franchement, le film mérite vraiment d'être vu en public et de pouvoir faire profiter à Louis de ça. Merci beaucoup.
Merci, on espère venir.
Voilà pour le verdict donc de cette 27e édition. On va adresser quelques remerciements. Merci déjà à nos attachés de presse qui nous ont chouchoutés pendant ces 4 jours. Merci à Anne et à Peggy, évidemment, pour leur attention tout au long de ce festival. Merci à Marie Séguré et Emmanuel Mallet qui ont mené de main de maître, en tout cas, cette 27e édition. Merci à toutes les équipes passées à notre micro. C'était totalement dingue. Et puis un grand merci à tous les bénévoles qui nous ont chouchoutés, qui nous ont nourris, qui nous ont accompagnés pendant ces 4 jours. On rappelle que vous avez toutes les photos et évidemment tous les lives, hein, les cérémonies d'ouverture et de clôture qu'on a retransmis en direct sur tous nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Vous pouvez bien sûr revivre cette magnifique édition du côté de Luchon. Mais on va pas la terminer comme ça, puisque vous savez que Luchon fait la part belle, en plus des fictions, aux documentaires. Et on va parler justement de la ligne directrice des documentaires, puisqu'on a eu l'occasion de rencontrer Isabella Pisani, la responsable de l'unité documentaire chez LCP, et qui nous dresse justement la ligne directrice des mois à venir sur la chaîne.
Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Allez, on va parler de documentaire avec Isabella Pisani, qui est la responsable de l'unité documentaire sur la chaîne LCP. Bonjour Isabella.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, j'avais envie de vous accueillir, Isabella, parce que c'est vrai que depuis qu'LCP est sur le canal numéro 8, on a vu pas mal de rediffusions de documentaires diffusés sur LCP déjà avant, mais sur d'autres chaînes. Et là, ça y est, arrive toute une salve de documentaires inédits qu'on va pouvoir découvrir tout au long de ce printemps. J'ai l'impression que le documentaire sur LCP, c'est important, c'est dans l'ADN vraiment de la chaîne.
Alors complètement, c'est vraiment dans l'ADN. Alors j'y suis depuis 25 ans, donc je peux vraiment vous dire que le documentaire est dans l'ADN de la chaîne. On a fait en sorte de créer une case documentaire qui au fil des années a grandi, s'est nourrie d'un budget qui a aussi augmenté. Donc on a cette fierté-là de garder toujours le même budget et d'essayer de donner le maximum de moyens aux producteurs pour faire les films inédits qu'on peut voir sur LCP.
C'est pourtant pas gagné en ce moment, hein.
Et c'est surtout, c'est pas gagné en ce moment, et c'est bien pour ça que je le souligne, pour dire que vraiment, nous, on continue à être aussi ambitieux, mais aussi bien dans la liberté qu'on veut continuer à donner aux réalisateurs, auteurs, producteurs, la confiance absolue que je leur fais, pour justement avoir des films singuliers, pas formatés, et qui montrent vraiment avoir la société à travers le regard de son auteur-réalisateur et qui va nous éclairer, nous faire comprendre, nous alerter, et c'est vraiment tout l'objectif de cette case documentaire. Et on est très fiers parce que on a 2 documentaires à Luchon qui montrent un peu notre regain en termes de production et de coproduction. Et là, il va y avoir tout un tas de nouveautés, à commencer par mardi prochain avec Notice Rouge, dont on sort de la projection ici à Luchon. Et le 25 mars, Le Dilemme d'Hippocrate. Et il y aura aussi tout un tas d'autres documentaires qui n'ont pas été sélectionnés, hélas, mais qui vont continuer à nous alerter sur des problèmes de société à travers un très joli documentaire intimiste qui s'appelle Marius et le bruit des vagues, qui suit un couple qui a un petit enfant qui naît sourd profond et qui va faire une opération qui va lui permettre d'entendre. On a aussi des figures politiques comme Paul Reynaud, peu connu, à travers les coulisses de tout ce qui s'est mis en place avec Churchill, Pétain, De Gaulle qui part à Londres. Enfin, c'est un peu ces coulisses-là qui sont méconnues et le rôle de Paul Reynaud. Et on va évidemment aussi, par rapport au municipal, qui est aussi un petit peu un événement pour nous, chaîne parlementaire, comme le sera les présidentielles. On a diffusé un documentaire très beau sur les maires ruraux des toutes petites communes. Et après les municipales, on aura un autre documentaire qui est à l'intérieur d'une tour du 19e à Paris. Et le réalisateur vit dans cette tour et c'est à travers les habitants de cette tour qu'on va prendre le pouls de la campagne municipale à Paris.
Isabella, c'est ça qui me bluffe, moi, c'est qu'on est sur la chaîne parlementaire, donc chaîne publique aussi, et je trouve qu'il y a un espace de liberté, de ton, de liberté dans les sujets, qui est vraiment donné aux producteurs, aux réalisateurs, à partir du moment où ils vont s'emparer d'un sujet. On peut y voir des sujets, même parfois dérangeants, peut-être, effectivement, pour des parlementaires, et c'est ça qui est bien, c'est que c'est cette liberté dont vous avez aujourd'hui.
Ah oui, mais cette liberté, elle est fondamentale, fondamentale, et on l'a depuis 25 ans, donc on espère bien toujours la garder et l'avoir, car la liberté est chère en ce moment, on s'en rend de plus en plus compte. Et oui, si on a vraiment notre rôle à jouer dans la création audiovisuelle du documentaire aujourd'hui, elle est là, elle est pour justement aller là où les autres chaînes ne vont plus. Et ça m'est très très cher, et tant que je serai libre, je serai là où je suis et je continuerai à faire des documentaires. Et c'est parce qu'on a cette liberté-là, qu'on a cette richesse-là et qu'on peut se permettre peut-être d'aller sur des sujets qui parfois, on le sait, vont faire peut-être moins d'audience, mais qui sont des sujets...
sont des missions.
Des missions, exactement.
Et c'est vrai que, Isabella, est-ce que ça a changé quelque chose aujourd'hui d'être sur le canal numéro 8? Est-ce que ça a permis justement d'augmenter l'audience que mécaniquement, on le sait, la numérotation, plus on est au début de la numérotation, plus l'audience est un peu plus facile. Est-ce qu'effectivement, d'être passé sur Canal 8, ça a changé beaucoup de choses pour LCP aujourd'hui?
Alors, ça a changé. Il y a deux choses qui ont changé. En fait, en effet, le fait qu'on soit passé sur le Canal 8 avec des téléspectateurs qui sont fidèles à notre chaîne et qui sont des gens qui regardent la télé en linéaire, qui ont cette habitude-là de la télécommande. Donc oui, pour cela, on sent vraiment que ça a boosté, mais de 40%. Et par ailleurs, on a décalé l'horaire de programmation de Débat Doc qui, avant, était à 20h35. On l'a mis à 20h40 pour justement profiter un peu du flottement des gens qui zappent après les JT, les pauses pub, et on a vu les effets avec plus de 50% d'audience sur notre émission Débat Doc. Donc on peut dire que oui, ça nous porte vraiment et ça donne une visibilité encore plus forte à notre chaîne.
Pour vous, est-ce qu'il y a des orientations? Est-ce qu'il y a effectivement des axes d'évolution que vous souhaiteriez apporter dans cette section documentaire? Peut-être avoir des documentaires un peu plus découvertes, géographie, historique, vous le faites déjà, politique aussi, bien sûr aussi, sur des sujets sociétales très régulièrement. Mais est-ce que vous auriez envie d'ouvrir même aujourd'hui un peu plus cette ligne éditoriale?
Je pense que notre ligne, elle est cohérente. Donc si on s'attache à parler de la politique, de l'histoire, de la société, de l'international, c'est toujours pour montrer, éduquer, sensibiliser, alerter. C'est notre mission. Il est vrai que ça l'est un peu moins sur des sujets, on va dire, de découverte, de culture. S'il y a un sujet, par exemple, l'exception culturelle française, c'est un sujet de société, c'est politique. C'est dans notre ligne éditoriale. Mais un film qui va faire le portrait d'un acteur ou d'un réalisateur, là, on n'est plus dans notre mission. Donc, on va rester sur nos basiques et on va essayer de continuer de les développer, de donner le maximum de moyens pour peut-être en faire plus, tout en gardant nos trois thématiques fortes, l'histoire, la politique, la société. Et quand je dis politique, je parle bien évidemment aussi de l'international, car il faut bien comprendre le rôle de la France dans cette dimension. Oui.
Quelles sont les grandes choses prévues que vous commencez certainement à préparer pour la rentrée 2026, qui se profile un petit peu, les sujets importants que vous allez vouloir développer à la prochaine saison?
Alors, on va mettre vraiment un focus fort sur la politique, parce qu'on va avoir les présidents.
Ce sera la saison de la présidentielle.
Voilà, donc là, forcément, on a tout un tas de projets documentaires qui vont aborder la politique de façon directe ou indirecte, à travers, par exemple, là, on a lancé en coproduction avec Particule, c'est Guylaine Chenu, la productrice, et c'est réalisé par Elisabeth Martichoux. C'est La défaite en politique, une adaptation de son livre, pour parler de toutes les différents destins de certains hommes politiques qui n'ont pas gagné. On va aussi réfléchir autour du phénomène des influenceurs par rapport à la politique aujourd'hui.
On s'ouvre un peu à la culture. On y va tout doucement.
On y va, mais finalement, société, culture, les frontières sont fines parfois.
Là, on est plus sur la société presque. Voilà.
Mais oui, vraiment, on a envie de trouver tous les angles qui aujourd'hui vont nous permettre de mieux comprendre, appréhender et voter au mieux.
Merci beaucoup Isabella Pisani. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'unité documentaire sur la chaîne LCP et qu'il y a souvent des documentaires en tout cas très très intéressants que vous pouvez découvrir sur cette chaîne. Et on parlera d'ailleurs de Notice Rouge puisqu'il y aura des rediffusions et on accueillera une partie de l'équipe lundi prochain. Olivier Vlodarzic et Jean-Christophe Brizard seront avec nous. Et puis on aura Mélissa Torio qui nous fera le plaisir d'être avec nous avec son réalisateur pour le Dilemme d'Hippocrate au mois de mars, juste avant la diffusion le 23 mars dans Chute en écoute à télé le 25 mars sur LCP. Merci beaucoup Isabella.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Il y a environ 70 000 notices rouges actuellement en circulation. Elles permettent chaque année de capturer des milliers de criminels, mais aussi des innocents, Des États ont en effet compris que ce système serait parfait pour cibler des opposants.
Après notre documentaire exclusif Notice Rouge, la face cachée d'Interpol avec nos invités, nous nous interrogerons sur les dérives liées aux avis de recherche lancés par le réseau mondial de toutes les polices.
Un documentaire suivi de débat doc présenté par Jean-Pierre Gracien sur LCP Canal 8, lcp.fr et la plateforme France Télévisions.
Allez, en exclu podcast, notre coup de cœur télé consacré à France 5 qui ce soir va vous programmer à partir de 21h un magnifique documentaire intitulé Océania, les gardiens de l'océan avec le réalisateur Reynald Merienne qui est avec nous. Bonjour Reynald.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et Catherine Alvarez, la productrice qui est également avec nous. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Merci à tous les deux. Alors, quand j'ai vu les images, j'ai été subjugué. C'est d'une beauté sans nom. Et c'est là qu'on prend conscience, peut-être en voyant des films comme ça, de la fragilité et de la beauté de notre planète. Il faut le dire quand même.
Oui, comme disait le commandant Cousteau, on protège ce que l'on aime. Donc avec ce film, j'espère qu'on prendra conscience exactement de ça. C'est la planète est belle, l'Océanie est magnifique et c'est regarder ces océaniennes et ces océaniens prendre soin de leur océan et donc de notre planète.
Alors, moi, j'ai été particulièrement marqué, Reynald. Alors, d'une part les images et on apprend plein de choses dans ce film. Et notamment que l'Océanie, à cause d'un courant, est quasiment la poubelle du monde. C'est hallucinant.
Oui, ce sont tous les courants qu'on appelle des gyres. Il y a 5 gyres à travers le monde, à travers l'océan, parce qu'il n'y a qu'un océan. Et donc, ce sont des tourbillons, en fait, qui amassent les plastiques qui sont disséminés dans l'océan. Donc, ça aspire tous ces déchets, toute cette pollution plastique. Il y a un gyre dans le Pacifique Nord, un gyre dans le Pacifique Sud, à proximité des côtes de l'île de Pâques. Et donc, ce gyre déverse ensuite le plastique sur les côtes de l'île de Pâques et des îles du Pacifique d'une manière générale. Et en fait, ces gyres, c'est nous qui les alimentons avec nos propres déchets. Lorsque l'on jette des plastiques dans les égouts ou lorsqu'on ne trie pas, tout ça, ça part dans les rivières, dans les fleuves, dans les océans, dans les mers. Et ça arrive ensuite sur les îles du Pacifique et d'autres îles à travers le monde. Donc, c'est le battement du papillon, vous savez. Ce que l'on fait a un impact qui résonne partout.
Alors Reynald, le film s'attarde sur de multiples îles, sur une superficie absolument hallucinante, puisqu'on part de Hawaï, on va à Wallis, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, un petit peu partout, où vous avez pu rencontrer en tout cas ce qu'on appelle des gardiens de l'océan, c'est-à-dire des gens qui prennent la pleine mesure du réchauffement climatique et qui en plus aujourd'hui prennent des mesures et essayent d'œuvrer pour en réduire en tout cas les effets, déjà dans un premier temps. Mais en tout cas, ils font quelque chose, parce que comme ils disent... Nous, c'est notre garde-manger, c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui l'océan, donc on veut le protéger à tout prix. Est-ce que c'était facile de trouver tous ces témoins, tous ces gardiens ?
Je crois que quand on est passionné, c'est toujours facile. Donc en fait, ce qui est facile, c'est que ces gens mettent en avant leurs actions. Et donc, ils essaient vraiment de porter le message le plus loin possible. Et donc, du coup, ils sont assez facilement identifiables. On arrive très rapidement à entrer en contact avec eux parce que c'est leur objectif, c'est de pouvoir porter leur message. Donc voilà. Les trouver, c'est facile. Et ensuite, nouer une relation de confiance, développer un petit peu ce contrat avec eux. C'est ça qui prend un petit peu plus de temps parce que il faut montrer effectivement qu'on écoute vraiment le message qu'ils portent. On n'essaie pas de le travestir, de le transformer parce qu'on voudrait entendre. Et ça a été vraiment un des travaux essentiels même, c'était de pouvoir... être au plus près de leur parole, la respecter, la porter sans la dénaturer.
Ce qui est assez frappant aussi, c'est que toutes ces îles qui sont gérées aujourd'hui par de multiples nationalités, on a l'impression qu'elles font bloc, elles font vraiment une seule nationalité quasiment, alors qu'à Hawaï, c'est les États-Unis, la Polynésie, il y a une partie française aussi, et on a l'impression quand même qu'ils sont tous en train de se liguer pour s'aider les uns les autres.
Alors c'est pas se liguer, mais en effet c'est l'histoire du monde et c'était aussi ce qu'on voulait raconter dans ce film. On le sait, des frontières ont été tracées par des empires et puis on a découpé le monde. L'Océanie, les Océaniens se racontent le peuple de l'eau. C'est comme un grand le continent de l'eau et c'est pour ça qu'il y a ce passage aussi qu'on y tenait dans le film qui revient sur l'histoire l'histoire des peuples océaniens et avec cette prise de conscience très forte, donc c'était en 1976, avec cette pirogue Okulea qui est partie d'Hawaï pour rejoindre Tahiti sur cette pirogue sans aucun instrument de navigation, qui a renoué avec, en démontrant que c'était quand même les plus grands navigateurs au monde, et surtout qu'ils n'étaient qu'un seul peuple. Et c'est ça qui est très beau. Et c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si qu'ils soient ligués, mais en tous les cas, ils ont pris conscience qu'ils n'étaient pas seuls aussi, qu'ils faisaient partie, c'était vraiment des cousins, alors que ce sont des immensités. Et dans le film, c'est aussi le message qu'on veut donner, c'est que finalement, sont tous ensemble et nous sommes aussi tous ensemble puisque nous-mêmes faisons partie de cet océan.
Malgré qu'ils soient très éloignés les uns des autres parce que la superficie elle est dingue, hein, on n'imagine pas, mais c'est je ne sais combien de fois la France, l'Océanie, c'est peut-être des dizaines de fois la France.
En fait, il faut se rendre compte que l'Océanie, c'est un tiers de la planète. Donc, c'est des distances qui sont extraordinaires, c'est
ça
énorme.
Ça crée des complications pour tourner ça?
C'est des complications, c'est-à-dire que les déplacements sont un petit peu compliqués, les liaisons entre les îles ne sont pas toujours évidentes.
Production compliquée.
Ah ça oui, c'est pas compliqué, c'est lourd, on va dire ça comme ça. Et il fallait un réalisateur tel Reynald qui adore cet endroit du monde et aussi d'arriver à dire voilà quand Reynald partait en tournage, il pouvait pas revenir à Paris et passer le week-end. Hein. C'est-à-dire qu'on y reste pendant un moment. Il y a quand même très peu de liaisons aussi d'intérêt. Territoire à l'autre. Par exemple, Wallis est un territoire qui est vraiment isolé. Une fois qu'on est à Wallis, on ne peut pas repartir deux jours après. Donc c'était toute une logistique de production qui a été très lourde. Mais je dois dire, c'est comme ça dans la vie. Tout s'est tellement bien passé, en fait. Ça a été totalement extraordinaire. C'est comme si, d'un seul coup, on nous attendait pour ce film. Et voilà, tout s'est déroulé de façon absolument merveilleuse.
Je voudrais juste ajouter sur cette dimension de l'Océanie, c'est que dans le monde continental, on a tendance à voir l'océan et la mer comme quelque chose qui divise, qui sépare. Dans le monde océanien, c'est tout à fait l'inverse. L'océan rassemble. Et donc, l'océan n'est que le prolongement de l'île. Et donc, en fait, quand on parle de continent océanien, c'est peut-être liquide, c'est peut-être de l'océan, mais c'est un véritable continent, c'est une union de ces peuples. Et donc, comme vous le disiez, effectivement, aujourd'hui, ils reprennent conscience de ces liens qui les unissent et ils se rassemblent parce que c'est un peuple, un océan, une voix.
Alors qu'ils appartiennent pourtant à des nationalités quasiment tous différentes, c'est ça que moi j'ai trouvé en tout cas très très beau. Les images sont absolument magnifiques quand on est témoin de ça, Reynald, et qu'on est témoin de ces images qu'on est en train de tourner et qu'on sait aujourd'hui l'impact que le réchauffement climatique a sur ce paysage et va avoir dans les années à venir. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait de la peine quelque part, ou alors on se dit, ben justement, on va leur donner la parole pour ceux qui combattent tout ça et essayer de leur donner une voix qui puisse peut-être permettre d'arrêter, parce que c'est inarrêtable aujourd'hui, mais en tout cas de le freiner, ce réchauffement.
C'était important de pouvoir porter la voix des Océaniens parce que dans leur héritage culturel, dans leur histoire, ils ont déjà des solutions pour préserver cet environnement parce qu'ils ont appris à vivre en osmose avec l'environnement. Et donc, leur donner la voix, c'était amener ce message jusqu'à nous, être un trait d'union entre le monde océanien et le monde continental.
Et vous donnez des clés, du coup, déjà.
Ils donnent des clés et la plus importante d'entre elles, c'est que à eux seuls, ils ne vont pas régler tous les problèmes de l'environnement. En revanche, ils savent que si chacun d'entre nous fait quelque chose, même un petit geste, là, ça peut faire une différence. Et donc, lorsque Ludo combat le plastique, il sait qu'il ne va pas régler le problème du plastique sur l'île de Pâques. En revanche, il sait qu'il peut-être, il peut inspirer d'autres personnes pour combattre le plastique. Et cette diffusion, ce message qui se diffuse et qui peut nous inspirer tous, qui peut faire une différence.
Parce qu'il le dit hein, lui-même d'ailleurs hein, que c'est une goutte d'eau hein, ce qu'ils font hein, d'aller ramasser effectivement des fois au masque au tuba, d'aller ramasser les déchets dans des conditions des fois compliquées. Hein, les plastiques, les déchets se trouvent des fois enfouis sous les pierres, etc. Et quand on les voit faire, c'est vrai que on se dit voilà, mais c'est tellement petit ce qu'ils font, mais si plusieurs personnes font ça, ça deviendra grand.
Exactement, c'est un travail de Sisyphe, incessant, mais c'est ce que raconte Pierre Rabhi avec l'histoire du colibri, c'est que chacun doit faire sa part. Voilà.
Et aussi transmettre. Moi, ce film, à la fois, c'est un film qui alerte, Mais je le ressens à chaque fois comme un grand film d'espérance parce que on voit ces générations des plus vieux, des grands-pères, des pères, des mères, des sœurs, des frères aux enfants. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé même pour nous. Aujourd'hui, dans nos territoires, nous aussi, on est attachés à nos territoires. Là, on se retrouve dans les Pyrénées. C'est un formidable territoire, merveilleux, à conserver aussi. Hein, le réchauffement touche aussi les montagnes, on le sait. Et c'est ça que je trouve beau. C'est vraiment, on termine, je trouve, sur cette note-là aussi, pleine d'espérance. Et notre idée avec ce film, avec Rinald, c'était aussi d'en faire un film en disant « on peut y arriver ». On peut y arriver, on peut, et quand on voit ces peuples qui sont vraiment aux premières loges, ils sont vraiment en danger avec les réchauffements climatiques. C'est un danger pour Wallis peut disparaître, des îles qui peuvent disparaître.
Ils ont des idées, peut-être justement, à suivre, à dupliquer.
Et avec leurs enfants, quand on voit Amalia qui plante ses palétuviers, moi je trouve que c'est magnifique.
En tout cas, n'hésitez pas à le découvrir. C'est ce soir à 21h sur France 5. Bien sûr, vous allez pouvoir le découvrir ensuite sur France.tv. Vous allez avoir toute la semaine et même 6 mois pour le découvrir. On vous conseille en tout cas de prendre 1h30 pour prendre conscience, effectivement, qu'on est tous liés sur la planète et que l'Océanie, en tout cas, fait largement sa part. Océania, les gardiens de l'océan. Ce soir à 21h sur France 5, on écoute la bande-annonce. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Rénald, d'avoir été avec nous pour en parler. À très vite.
Merci beaucoup et à bientôt.
Merci, à bientôt.
Inédit sur France Télévisions. Élévation du niveau de la mer, plastique et disparition des espèces. Il est temps d'élever nos voix.
Ils sont aux premières loges d'un spectacle en danger.
Ce que l'on fait n'est pas suffisant.
Ils savent mieux que quiconque qu'il faut le protéger.
De cet océan, nous avons fait notre pays. C'est notre maison, notre ressource. Et c'est tout ce qui nous permet de vivre.
Chaque personne a un rôle à jouer.
Alors la question est, que faisons-nous ?
Océania, les gardiens de l'océan. Lundi dès 6h sur France.tv et à 21h05 sur France 5.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Notice Rouge que vous pouvez retrouver sur lcp.fr et qui sera rediffusé d'ailleurs aussi dimanche prochain. À cette occasion, eh bien, nous avons le réalisateur Jean-Christophe Brizard qui est avec nous. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a Olivier Vlodarzik qui est également avec nous, le producteur. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux. Alors, Notice Rouge raconte l'histoire d'une notice, alors que moi, j'en avais absolument aucune idée. Je ne savais pas ce que c'était que Notice Rouge. Est-ce que déjà, quelqu'un veut s'y coller et nous expliquer, Jean-Christophe, ce que c'est qu'une notice rouge à Interpol ?
Alors, Interpol, c'est une organisation internationale qui regroupe quasiment toutes les polices du monde, à part celle de la Corée du Nord.
Qui est basée à Lyon. Ça, il faut spécifier, elle est basée en France.
C'est ça, le secrétariat général est basé à Lyon. Et au sein de cette organisation internationale, chaque pays membre peut émettre une alerte pour traquer un criminel. Je donne un exemple. Un membre du crime organisé du Brésil a fui le pays et le Brésil le recherche. Le Brésil envoie une alerte à Interpol en disant « Nous recherchons cette personne parce qu'elle a fait commis des crimes. » Interpol vérifie si l'alerte est justifié, s'il ne s'agit pas d'une attaque contre un opposant, contre une minorité, et s'il valide cette alerte, ça devient une notice rouge, c'est-à-dire une alerte internationale qui est envoyée à toutes les polices du monde, et tous les pays membres doivent arrêter la personne quand elle traverse une frontière.
Et alors, ce qu'on va découvrir dans ce film, c'est que des fois, les notices rouges ne sont pas utilisées à bon escient.
Tout à fait. Par manque de moyens financiers, Interpol ne peut pas réellement, sérieusement vérifier toutes les demandes des pays membres pour les notices rouges. Actuellement, on estime qu'il y a 70 000 notices rouges qui sont en circulation, qui sont validées. Mais chaque année, il y en a des milliers de nouvelles qui sont envoyées à Lyon. Et par manque de moyens financiers et humains, certaines fausses notices rouges, des notices rouges abusives, passent entre les mailles du filet. Et donc, vous avez des opposants qui sont traqués pour de mauvaises raisons.
Alors, c'est le cas de Paul Watson. Alors moi, j'ai été absolument bluffé par ça. Il a été arrêté, vous le savez, au Groenland. Il a été emprisonné pendant 5 mois. Et en fait, Paul Watson a été victime d'une notice rouge émise par le Japon, puisqu'il traquait les chasseurs de baleines là-bas. Et donc, le Japon a utilisé, par exemple, effectivement, cette notice rouge à mauvais escient.
Oui, et là, ce qui est encore plus curieux, c'est que Interpol souvent dit « on peut être abusé si c'est pour une personne qui n'est pas connue ». Ou quand vous tapez son nom sur Internet, il n'y a rien qui ressort comme quoi c'est un militant ou un opposant. Paul Watson, il est mondialement connu. Vous tapez son nom, vous savez qui il est. Et pourtant, un pays comme le Japon, qui n'est pas une dictature, hein, mais qui voulait se venger de Paul Watson, a pu tromper Interpol, ou en tout cas, Interpol a laissé faire. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que le Japon, en échange, a promis quelque chose à Interpol ? On ne sait pas, mais le fait est que cette personne, Paul Watson, a été emprisonné 5 mois au Groenland. C'est quelqu'un qui a plus de 70 ans, qui a été menacé d'être envoyé au Japon. Et s'il avait été envoyé au Japon, il aurait été certainement condamné à vie.
C'est quand même dingue, c'est fascinant de voir effectivement les erreurs qui peuvent être commises comme ça, Olivier, quand tu as produit ce film, au fur et à mesure que les rushs arrivaient, au fur et à mesure que Jean-Christophe tournait des images, on ressent quoi ? On est médusé par ce qui se passe ?
On est médusé et surtout les histoires que Jean-Christophe raconte dans le film sont terrifiante. Enfin, c'est hallucinant de voir à quel point toutes les familles, qu'elles soient ouïghours, qu'elles soient biélorusses, qu'elles soient de tous les pays, cette notice détruit complètement. Et c'est cette façon dont Jean-Christophe a réussi à restituer cette inhumanité qui m'a beaucoup beaucoup touché. Et entre parenthèses, ce qui s'est passé aussi, c'est que effectivement, il parle des notices rouges abusives, mais il parle aussi des gens, des escrocs qui payent la commission pour annuler ces notices et qui donnent des millions de dollars. Et sans, alors, la personne a été arrêtée, certes, mais il y a pas que un film sur les gens qui sont en notice rouge abusive. Il y a aussi des gens qui en profitent et qui ont de l'argent et qui les annulent. Donc c'est cette en tout cas cette humanité là qui m'a beaucoup touché dans le résultat de ce documentaire.
Parce qu'on a découvert effectivement ce jeune homme qui était traqué par la Biélorussie et qui essayait de se cacher à plusieurs endroits. Comme il dit, je vis traqué en ayant la possibilité d'être arrêté à n'importe quel instant, d'être emprisonné à n'importe quel moment, n'importe quel matin quand je me réveille. Enfin, c'est quelque chose d'ahurissant, quoi.
Oui, et c'est d'autant plus choquant que à aucun moment Interpol ne soutient ses victimes, même si Interpol est responsable à l'origine.
À partir du moment où c'est su, quand même. Enfin, à partir du moment où c'est vérifiable et qu'il y a vraiment un souci, comment ça se fait qu'ils n'interviennent pas plus rapidement ?
En fait, par manque de moyens financiers, Interpol ne peut pas se permettre d'être attaqué par ses victimes. Imaginons qu'une victime dise j'estime, je porte plainte contre Interpol et je réclame des indemnisations. Interpol n'en a pas les moyens et en a très peur. Parce que toutes ces victimes pourraient dire « Mais vous n'avez pas fait votre boulot, vous n'avez pas vérifié les notices rouges. À cause de vous, j'ai perdu X années de ma vie, j'ai failli être emprisonné, etc. etc. » Et c'est pour ça qu'Interpol, à aucun moment, ne s'excuse, ne dit « C'est notre faute. » Ils lèvent la notice rouge quand ils sont poussés à le faire par des avocats. Mais sinon, ils ne disent rien. Donc vous êtes à la fois, vous êtes doublement victime. Vous êtes victime par la notice rouge et ensuite, on ne reconnaît pas ce qui vous est arrivé. Et ça, c'est terrible, psychologiquement, pour se reconstruire. Et je vous passe aussi les problèmes financiers. Mais c'est vraiment terrible.
C'est totalement hallucinant. Au fur et à mesure qu'on fait un film comme ça, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on arrive à une institution qui est Interpol, qui est un peu à bout de souffle, finalement, qui elle aussi manque de moyens, est-ce qu'elle a encore effectivement raison d'exister, ou elle faudrait qu'elle soit complètement remaniée ?
Alors, c'est ambigu, parce que d'un côté, Interpol fait du super boulot. 90% des notices rouges sont justifiées, mais on est quand même sur à peu près 10% de mauvaises notices rouges, et c'est énorme. On parle de moins 70 000 notices rouges. Donc 10% de 70 000, ça fait du monde.
Bah oui, ça fait 7 000.
Donc 7 000 personnes, si on vous dit que ces 7 000 personnes ne comptent pas, c'est pas possible. Interpol peut changer. Il faut juste qu'elle assume ses problèmes, qu'elle les accepte, et qu'ensuite les États membres paye plus. C'est le problème, c'est que vous avez la plupart des démocraties qui ne veulent plus payer assez. Donc vous avez des pays comme la Chine, comme la Russie, comme les pays de la péninsule arabique qui ont compris que c'était un super outil. On va donner plus d'argent pour le contrôler. Donc on est fautif. Quand je dis « on », les grandes démocraties sont fautives.
Je voudrais juste rajouter que quand on parle de 7000 personnes, c'est un chiffre. C'est quelque chose qui est un peu imperceptible. Là, Jean-Christophe, il a mis des visages, il a mis des vies derrière ces chiffres.
Parce que c'est 7000 personnes en danger, c'est 7000 personnes traquées, injustement.
Et c'est 7000 personnes, familles, comme la famille Ouïghour, par exemple, brisées, Donc c'est quelque chose qui n'est pas acceptable et ce genre de documentaire ben, met en lumière ces injustices-là et on est très fiers de pouvoir qu'elle soit diffusée et qu'on puisse partager ça au sein du festival.
Et puis surtout mettre en lumière effectivement ce que c'est qu'une notice rouge. J'en ai jamais entendu parler de ce terme.
Voilà, maintenant grâce à vous on va savoir ce que c'est qu'une notice rouge. Notice rouge, donc le film événement c'est demain soir, mardi 10 février à 20h40 sur LCP, suivi d'un débat. Ça sera rediffusé dimanche à 18h25 et ça sera rediffusé également mardi prochain à minuit 40.
Olivier, on se retrouvera bientôt aussi avec un nouveau documentaire que tu as produit aussi qui s'appelle À la vie, à la mort, qui met en scène trois jeunes filles qui ont décidé de se lancer dans des études, dans le funéraire. Toute une histoire aussi, des portraits bouleversants qu'on découvrira bientôt. Jean-Christophe, dans les projets ?
Je refais un film avec Olivier et sur LCP, sur un sujet assez incroyable. C'est un sujet historique, mais
inédit, oui.
Sur des archives jamais démontrées, dévoilées sur la Seconde Guerre mondiale.
À très bientôt alors. Merci à tous les deux.
Il y a environ 70 000 notices rouges actuellement en circulation. Elles permettent chaque année de capturer des milliers de criminels, mais aussi des innocents. Des États ont en effet compris que ce système serait parfait pour cibler des opposants.
Après notre documentaire exclusif Notice Rouge, la face cachée d'Interpol avec nos invités, nous nous interrogerons sur les dérives liées aux avis de recherche lancés par le réseau mondial de toutes les polices.
Un documentaire suivi de débat doc présenté par Jean-Pierre Gratien. Sur LCP Canal 8, lcp.fr et la plateforme France Télévisions.
Voilà pour cette édition spéciale en supplément. Vous pouvez revivre, donc, on vous le disait, toutes nos aventures au Festival de Luchon sur tous nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Chut, on écoute la télé. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures très bientôt sur notre site internet onécoutelatélé.com et sur nos 19 radios partenaires.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.